votre radio, notre climat. Il est 19h, voici le journal.
Le journal.
Bonsoir à tous. Karim Benzema, hors jeu. Mis en examen dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena, il n'est plus sélectionnable en équipe de France jusqu'à nouvel ordre. Alerte relevée à Genève où la police recherche des suspects, 4 hommes possiblement liés au terrorisme. Et puis moins de 36 heures pour trouver un accord sur le réchauffement climatique. La COP21 se termine demain soir à Paris. Voilà pour les principaux titres de l'actualité. Et tout d'abord donc, carton rouge pour Karim Benzema, l'attaquant du Real n'est plus sélectionnable en équipe de France. C'est la décision de Noël Le Graët. Benzema ne rejouera pas en bleu tant qu'il n'y aura pas d'éléments nouveaux dans l'affaire de la sextape. Une décision difficile à prendre pour le président de la FFF.
Je suis plutôt malheureux. J'ai regardé samedi dernier, je crois, le premier match qu'il réalisait depuis quelques temps. 10 minutes, 2 buts de Benzema. Hier ou avant-hier, Champions League. Au bout de 10 minutes, 2 buts de Benzema. Ça me fait mal au cœur. D'abord parce qu'il est bon, parce que je suis persuadé qu'il est pris dans un truc complètement dingo ou qu'il le dépasse. Il n'est pas l'instigateur. Je ne suis pas non plus son avocat et je ne veux pas faire de procès pour ni contre. Je pense que par rapport à l'éthique, j'ai pris la décision que je croyais devoir prendre.
Mathieu Valbuena reste, lui, sélectionnable chez les Bleus. Benzema pourrait donc être privé d'euros. Sérieux coup dur pour l'équipe de France à 6 mois du rendez-vous, Mathieu Bellisario.
Oui, sérieux coup dur pour l'équipe de France et le sélectionneur Didier Deschamps, contraint de se priver malgré lui d'un joueur qu'il a toujours soutenu, même dans la tempête et même quand il ne marquait pas en bleu pendant 1 an. Car malgré les affaires, eh bien Karim Benzema est aujourd'hui un joueur indispensable à son club. D'abord le Real Madrid et a fortiori à l'équipe de France. C'est d'ailleurs le meilleur buteur des Bleus en activité malgré un ratio en deçà de son talent. Alors à 6 mois de l'Euro, la question est évidemment de savoir si les Bleus ont les moyens de se passer de Benzema. Assez dur de répondre, mais ce qui est sûr, eh bien, c'est que d'autres joueurs peuvent le remplacer numériquement. Olivier Giroud, Anthony Martial ou encore Antoine Griezmann, avec à chaque fois un avantage, eux ne sont pas inquiétés par la justice.
Concernant Michel Platini, le tribunal arbitral du sport rendra sa décision demain matin vers 10h. Il doit se prononcer sur la levée ou non de sa suspension de 90 jours. Dans l'actualité également ce soir, Jacques Chirac hospitalisé. Selon sa fille, son état ne serait pas inquiétant. L'ancien chef de l'État, âgé de 83 ans, se sentait affaibli depuis quelques jours. Il doit faire un bilan de santé complet et devrait rester à l'hôpital pendant plusieurs jours. Dernières heures de campagne pour les candidats au second tour des régionales. Elles se terminent demain soir et le suspense reste entier. Le Front National va-t-il transformer l'essai du premier tour? Réponse dimanche soir. Genève relève donc son niveau d'alerte. 4 personnes sont toujours recherchées ce soir, des personnes liées à la mouvance djihadiste et au groupe État islamique. Une menace précise pour les autorités qui ont donc pris des mesures radicales, Sophie Sarrance.
Oui, il faut dire que Genève accueille de nombreuses organisations internationales. C'est le cas du siège européen des Nations Unies. Un bâtiment qui fait depuis 24 heures l'objet d'une surveillance renforcée. Des gardes armés de fusils automatiques patrouillent à l'intérieur du bâtiment, du jamais vu. Ailleurs, dans la ville suisse, des forces de police supplémentaires ont été déployées, en particulier à l'aéroport et à la gare. Des mesures qui ne sont pas sans rappeler celles prises à Bruxelles au lendemain des attentats de Paris. La capitale belge avait été placée pendant 4 jours en état d'alerte maximale.
Quick, bientôt racheté par Burger King. L'autorité de la concurrence a autorisé aujourd'hui le rachat. L'opération devrait faire de Burger King le numéro 2 du marché de la restauration rapide en France, derrière McDonald's. De nouveaux cas de grippe aviaire détectés dans le sud-ouest. Un dans le Gers, l'autre dans les Landes, ce qui porte à 12 le nombre de cas recensés en France depuis début novembre. Le ministère de l'Agriculture rappelle que le virus ne se transmet pas par la consommation de volailles. Plus que quelques heures donc pour trouver un accord. La COP21 se termine demain soir à Paris. Hier, un premier projet d'accord a été soumis aux 195 pays participants. Mais de nombreux points restent encore problématiques, notamment l'aide financière aux pays du Sud pour limiter le réchauffement climatique. Une expérimentation zéro chômage de longue durée sur un territoire. La mesure est au centre d'une proposition de loi socialiste votée hier soir à l'Assemblée nationale. Ce texte, inspiré par l'association ATD Quart Monde, a obtenu l'aval de toute la gauche, comme de l'UDI et des élus Les Républicains. Les explications de Nicolas Billy.
Il s'agit pendant 5 ans dans 10 micro-territoires volontaires de l'embauche en CDI de chômeurs de longue durée. Ils travailleront dans une entreprise développant une activité dans l'économie sociale et solidaire. Les emplois identifiés vont des travaux de maraîchage chauffage ou forestier à l'aide à domicile en passant par des travaux dans les campings. Les volontaires seront payés au SMIC. L'argent public alloué pour accompagner ces demandeurs d'emploi via notamment le RSA servira à financer ces salaires. Environ 2000 chômeurs de longue durée seraient concernés, y compris des personnes qualifiées. La mesure, si elle est jugée concluante, pourrait être généralisée.
Du handball pour terminer avec la suite du mondial féminin au Danemark. Les Françaises affrontent la République démocratique du Congo en ce moment. Avant-dernier match de poule pour les Bleus au féminin avant de défier les tenantes du titre, le Brésil, demain soir. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.
Votre radio, notre climat.
19h05, votre radio, notre climat, pour vous accompagner jusqu'à 20h avec les radios du collectif partenaire de la plateforme protestante des radios locales. On va retrouver un peu de fraîcheur avant de s'intéresser à notre dossier du soir, un peu de fraîcheur avec un éco-geste qui est proposé par les enfants.
Un éco-geste.
Éco-geste, un geste, une économie.
Pour une terre durable.
Salut Mathéo.
Salut Ayman.
J'ai trouvé un morceau de verre par terre. C'est dangereux, les gens ne réfléchissent pas.
Et qu'est-ce que tu en as fait ?
Je l'ai mis dans une poubelle jaune.
Mais il ne fallait pas faire ça, il fallait l'ajouter dans un conteneur pour le verre.
L'éco-geste, un simple geste qui peut changer le monde. Eco-friendly action, simple action that can change the world.
Les gestes les plus simples sont les plus importants.
Les éco-gestes sur Espoir FM par les élèves du collège Saint-Jean à Tonneins et l'espace Info-Énergie de Villeneuve-sur-Lot.
Et on n'en finit pas de faire des progrès en anglais. Merci d'être avec nous. C'est l'heure de retrouver le dossier du soir. Alors ce soir, on va s'intéresser à des associations qui n'ont pas attendu la COP21 pour s'engager dans un changement de climat, dans le changement pour le climat, avec du développement durable, avec des économies d'énergie. Le dossier du soir, c'est tout de suite.
Votre radio, notre climat.
Alors des associations qui se sont engagées, des associations de la Fédération de l'entraide protestante, pour en parler, Chantal Crétaz et Claire Bernol reçoivent Pauline Simon qui est chargée de communication à la Fédération de l'entraide protestante.
Merci beaucoup. Bonsoir. Claire Bernol et moi-même, nous vous remercions, Pauline Simon, d'être venue à notre micro ce soir. Donc vous êtes, comme le disait Michel Schaeffer, la chargée de communication à la Fédération d'entraide protestante. Et c'est à ce titre que vous venez nous parler des initiatives de votre fédération dans le cadre de notre plateforme des radios protestantes dédiées aux questions de climat. Que pouvons-nous faire? Nous tous, chacun de nous. C'est une question optimiste, pleine de promesses même, que vous vous êtes déjà posée à la Fédération d'entraide protestante. Nous le savons, car votre secrétaire général, Jean Fontagneux, s'est exprimé dans les médias sur l'importance que votre fédération accordait aux actions de développement durable et pour quelles raisons cela concernait directement un grand nombre de vos 360 associations. Et c'est justement ce qui nous intéresse à partager avec les auditeurs de nos radios. Pouvez-vous donc nous résumer justement les motivations et les objectifs de la Fédération d'entraide protestante, Pauline Simon?
Oui, alors les objectifs de la FEP sont très simples. D'abord, c'est d'encourager les associations membres à prendre conscience de l'urgence de la situation et à agir pour le climat. Le climat est au centre des préoccupations collectives, donc à ce titre, elle concerne tous les publics, et notamment les publics qui sont accueillis par les associations. L'humain est au centre du développement durable et nos associations s'occupant de l'humain, la cohérence de leurs actions est ici fondamentale. Et puis, les associations protestantes ont toujours été en pointe de l'innovation sociale et collective et elles ont aujourd'hui, plus que jamais, le devoir d'avancer dans cette question de durabilité et nous les invitons à s'engager dans cette démarche et nous les accompagnons évidemment dans cette démarche.
Dans quel sens est-ce que ça se passe? Est-ce que ce sont plutôt les associations qui demandent à la Fédération d'entraide protestante, la FEP, d'intervenir et de soutenir leur démarche? Ou est-ce que c'est la FEP qui stimule les associations?
Les deux, c'est-à-dire que d'une part, nous allons à la rencontre de nos associations en essayant de faire le point avec eux, savoir où elles en sont dans cette démarche. Et puis, il y a aussi des demandes hein, pour être accompagnés dans la réflexion, dans ce qu'il est possible de faire. C'est aussi notre travail que d'identifier les initiatives qui sont déjà mises en place par des associations et de pouvoir les faire connaître. Et puis, d'accompagner aussi les associations dans la recherche de subventions pour mettre en place des initiatives intéressantes.
Quel contenu vous donnez à l'expression développement durable ? On peut dire quand même qu'elle est un peu galvaudée désormais.
C'est vrai. On oublie malheureusement souvent que les démarches de développement durable comportent trois éléments indissociables. On pense toujours au respect de l'environnement, qui est un des piliers du développement durable, évidemment, et qui touche les questions d'eau, d'énergie, de déchets. Mais le développement durable, c'est aussi des questions d'efficacité économique, donc c'est-à-dire adopter une éthique financière, permettre des innovations collectives. Et puis, c'est également une question d'équité sociale. Et là, la préoccupation de l'humain, hein, qui est placée au centre des préoccupations de l'association, ça touche également aux questions de formation, d'égalité des chances. Donc ce sont trois perspectives globales et qui doivent être pilotées en même temps.
Alors concrètement, on se rend vite compte lorsqu'on se lance dans un projet de ce type-là, développement durable, très vite on est amené à entrer en partenariat avec d'autres associations ou d'autres structures.
Tout à fait. C'est le cas, par exemple, de la fondation John Bost, hein, située à La Force, à côté de Bergerac, en Dordogne, et qui accueille et soigne des personnes souffrant de troubles psychiques et de handicap, qui a soutenu la création d'une plateforme d'achat de produits biologiques locaux et qui a dû donc mettre en mouvement plusieurs acteurs, plusieurs partenaires pour pouvoir faire émerger ce projet.
Justement, avec quel partenaire précisément travaille la Fondation John Bost ?
Alors, sur ce projet de plateforme d'achat de produits bio, ils se sont d'abord adressés à une association de réinsertion sociale avec laquelle ils travaillaient déjà. Cette association ne pouvant pas subvenir à tous les besoins de la Fondation, puisque ce sont tout de même 1500 repas servis chaque jour, s'est rapproché d'une seconde association de réinsertion sociale. Donc la Fondation John Bost a permis de créer du lien entre ces deux structures. Et puis il a fallu ensuite se rapprocher, toujours pour pouvoir subvenir aux besoins de la Fondation, de producteurs locaux, toujours évidemment dans l'agriculture biologique.
J'imagine que ce n'est pas le genre de choses qu'on met en place du jour au lendemain.
Non, évidemment, c'est un projet qui a pris un petit peu de temps puisqu'il a fallu 2 ans pour que la plateforme puisse aboutir.
Et quel frein la Fondation John Bost a rencontré, quel frein ont dû être levés pour aboutir au résultat actuel ?
Le principal frein auquel ils ont été confrontés, ça a été de pouvoir convaincre les producteurs de travailler avec ces deux associations de réinsertion, puisque les producteurs étaient un petit peu frileux ou méfiants vis-à-vis d'une grosse collectivité, notamment sur des questions de réglementation, qu'elles soient législatives, financières. Voilà. Donc il a fallu un petit peu de temps pour créer la confiance. Voilà. Mais on s'aperçoit que, avec de la bonne volonté, rien n'est impossible.
Radio, notre climat.
19h14, toujours en direct de la Maison du Protestantisme à Paris. C'est le dossier du soir et nous retrouvons Chantal Crétaz du service radio de la Fédération Protestante de France pour poser une question maintenant sur la suite de ce dossier sur le développement durable dans les associations de la Fédération de l'entraide protestante.
Alors Pauline Simon, pour mettre en place une dynamique de développement durable, il est souvent nécessaire que la direction elle-même ait une vue d'ensemble, d'autant plus quand la structure est grande.
Tout à fait. Pour qu'une démarche de développement durable puisse émerger et aboutir, il faut pouvoir impliquer tous les parties prenantes d'une structure. Et cela, l'EHPAD Emmaüs Diakonès à Strasbourg, donc qui est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, l'a très bien compris, puisque lorsqu'ils se sont engagés dans cette démarche, avec plusieurs projets qu'ils ont voulu mettre en place, avec l'aide d'un éco-conseiller, ils ont rapidement mis en place également un comité de pilotage. Donc ce comité est composé de membres de la direction, de membres du personnel, mais aussi de résidents des établissements. Et ce comité a vocation à proposer des projets, à assurer le suivi et surtout à permettre l'implication de tous.
Alors voilà ce qu'en dit son directeur, Stéphane Buzon, au téléphone avec Michel Schaeffer. Et on vous remercie, Michel Schaeffer.
Je pense que la base, c'est déjà qu'il faut que ça soit porté par une ou plusieurs personnes. L'idéal, et ça, c'est ce que j'essaie de transmettre aux EHPAD que lorsque je les rencontre dans des réunions, dans des conférences, c'est avant tout déjà que ça soit porté par une gouvernance. Donc, si possible, dans un établissement médico-social, voilà, c'est que ça soit le directeur soit convaincu de ce projet-là, qu'il est aussi convaincu, tant qu'à faire son président et le conseil d'administration, voilà, qui est déjà la gouvernance porte ce projet. Et ensuite, de trouver des relais au sein du personnel, ça, on en trouve des gens qui sont sensibles à cette démarche. Et après, voilà, c'est encore une fois, il faut faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de l'information, de la formation, de la présentation. Alors nous, on a eu la chance d'avoir un éco-conseiller qui est venu faire un stage pendant plusieurs mois dans la structure et qui nous a aidé à structurer cette démarche, ah oui. Paul Léger en l'occurrence, qui nous a aidé à structurer la démarche. Mais je pense que même si on n'a pas de personnes extérieures qui viennent aider, c'est vraiment l'idée de réfléchir à ce qu'on a envie de mettre en place et puis ensuite de construire ça autour d'une charte, d'un comité de pilotage, voilà. Et après, bien sûr qu'on doit s'appuyer sur les bonnes volontés.
Alors, une fois qu'elles sont identifiées, ces personnes de bonne volonté, ça ne suffit pas tout de même.
Non, bien sûr. Une fois qu'elles sont identifiées, encore faut-il choisir un projet pour commencer. Stéphane Buzon, avec le comité de pilotage, a choisi de commencer par un projet autour de l'eau et qui consistait tout simplement à remplacer les bouteilles plastiques par des fontaines à eau.
Alors voilà comment il s'y est pris, il nous le raconte.
C'est clair que lorsqu'on est dans une démarche comme ça, il faut avoir une démarche prospective, il faut réfléchir, et voilà, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, demain, il n'y a plus de bouteille d'eau, parce que là, on est en grande difficulté. Donc c'est vrai que le comité de pilotage a travaillé, donc je ne l'ai pas dit, mais il se réunit une fois par mois. Ça a été toute une démarche de réfléchir au quel type de contenant on veut prendre. Est-ce que c'est en verre, en plastique, en inox? D'ailleurs, on a retenu des contenants qui sont en polycarbonate qui, effectivement, résistent au lavage en machine à laver, parce qu'il y a des questions d'hygiène. Qu'est-ce qu'on prend comme fontaine? Où est-ce qu'on va les mettre? Comment on les relie à l'eau du robinet? Voilà. Bien sûr qu'il y a une réflexion. Quand on regarde derrière le gain potentiel, qui n'est pas obligatoirement instantané, mais quand on voit déjà ce que coûte l'eau du robinet par rapport à l'eau aux bouteilles, et surtout quand on voit que la majorité des communes en France sont en train de basculer à la facturation des poubelles au poids, oui. Et il est clair que demain, quand vous n'aurez plus à mettre vos bouteilles plastiques dans les poubelles, bah, la facturation va réduire de manière importante. Et puis le coût, encore une fois, de l'eau du robinet n'est pas du tout comparable au coût d'une bouteille en plastique. Donc, je crois que l'eau du robinet à Strasbourg, elle est au moins contrôlée une dizaine de fois par jour. On a fait quelque chose qui était intéressant pour pouvoir éduquer les gens dans cette réflexion. On a pris contact avec l'Eurométropole qui a en fait une exposition autour de l'eau. Donc ils nous l'ont prêté, on l'a mis dans l'entrée de l'établissement, on a proposé aux familles de venir, aux résidents, au personnel, et puis suite à cette exposition, on a fait une dégustation d'eau. Et on a proposé donc aux enfants de l'école d'en face et aux personnes âgées de faire une dégustation d'eau avec différentes eaux en bouteille et l'eau du robinet, animée par un représentant de l'Eurométropole. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'eau du robinet arrivait de mémoire dans les trois premiers au niveau du goût. Voilà. Et aujourd'hui, c'est en place, hein, et j'ai encore eu des retours, par exemple, on l'a installé aussi en salle à manger du personnel, et les gens apprécient, disent que l'eau du robinet, qui en plus, elle peut être soit pétillante, soit plate, qu'elle est vraiment très très bonne, ils apprécient énormément, les résidents aussi, mais ça montre aussi qu'il faut faire toute une démarche pédagogique avant.
Oui, tout à fait. Une démarche pédagogique avant, il faut aussi se fixer...
Donc il y a la gouvernance d'abord.
La gouvernance, oui, pardon, les bonnes volontés, la pédagogie, et il faut aussi pouvoir se fixer les bons objectifs, et je vous propose de l'écouter sur ce point.
Il faut être humble, et encore une fois, se fixer des objectifs. Je dis toujours, il y a trois choses qui sont importantes, il faut qu'ils soient visibles, compréhensibles et réalisables. C'est-à-dire qu'il faut que les gens voient ce qu'on a mis en place. Si vous commencez par mettre une pompe à chaleur, voilà, le personnel n'a pas vraiment conscience de ce qui a été fait, les résidents non plus. Ça a un impact, c'est sûr que ça apporte quelque chose. Voilà. Si vous faites quelque chose que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas intéressant non plus. Nous, on avait commencé aussi par mettre en place un local à vélo en bois pour l'ensemble des gens qui venaient à vélo, donc sécurisé, fermé, avec lumière. Voilà, c'est une des premières démarches. Bah, c'était visible, pas très cher, facilement réalisable. Et aujourd'hui, il est tellement envahi qu'on va devoir en mettre un deuxième, tellement le nombre de salariés est important de gens qui viennent à vélo.
On constate très clairement, Pauline Simon, l'importance de l'implication du personnel dans ce projet.
Tout à fait. Il faut pouvoir impliquer toutes les parties prenantes. Mais l'EHPAD va même plus loin puisqu'il propose également des formations au personnel qui en retire des bénéfices divers, que ce soit la montée en compétences, mais aussi le sentiment d'appartenance à cet établissement et la fierté d'appartenir à un établissement qui se préoccupe de ces questions-là. Mais ça permet aussi de créer un cadre de vie agréable pour tous. Et Stéphane Buzon aime bien reprendre cette expression que lui avait suggéré un professeur et qui disait que pour bien soigner, soigne tes soignants.
Il y a encore d'autres secteurs de la vie de l'EHPAD qui sont concernés par cette évolution.
Tout à fait. Il y a également la coopérative, la ruche qui dit oui, qui est accueillie dans le hall de l'EHPAD et qui permet aux riverains, mais aussi aux familles des résidents de venir acheter des produits.
C'est une sorte d'AMAP ?
C'est exactement, c'est une sorte d'AMAP qui propose des produits issus de l'agriculture biologique et raisonnée. Donc il y a cet accueil qui est fait dans le hall et qui crée aussi du lien social pour les résidents. Mais il y a également d'autres projets qui ont été mis en place, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire qui a tout de même permis de diviser par deux les restes des repas. Et ça a été permis tout simplement en créant du lien entre les personnels de cuisine et les résidents de la conversation. Et puis, enfin, il y a aussi ce projet de compostage qui permet aujourd'hui à 100% des déchets organiques de l'EHPAD d'être compostés. Le compost est ensuite utilisé dans l'établissement pour le jardin d'établissement, mais aussi peut-être donné aux familles des résidents si elles le souhaitent. Donc, c'est une conception finalement d'ensemble qui n'oublie aucun aspect de la vie quotidienne de l'établissement.
Votre radio, notre climat.
C'est le dossier du soir, toujours en direct de la Maison du Protestantisme à 19h23, qui continue maintenant, Chantal Crétaz.
Alors, Pauline Simon, la FEP soutient aussi des associations pour qui le développement durable est constitutif de leur activité principale. C'est-à-dire que ça ne vient pas en plus, ce n'est pas quelque chose qu'on aménage, mais ça fait partie vraiment du centre de leur occupation, n'est-ce pas ?
C'est ça, c'est tout à fait le cas, par exemple, de l'ESAT, l'établissement de services et d'aide par le travail, qui s'appelle La Vie en Herbe, qui est un des ESAT de la Fondation des Amis de l'Atelier, et qui assure la production et la transformation de plantes médicinales et aromatiques, et qui porte, depuis 1990, ses valeurs liées au respect de l'environnement et des hommes.
D'ailleurs, on peut écouter Philippe Ferrer, qui dirige l'ESAT, La Vie en Herbe.
Depuis sa création, La Vie en Herbe porte des valeurs de solidarité, de respect et d'innovation. Choisir en 1990 de produire des plantes médicinales et aromatiques en bio pour accompagner des personnes en situation de handicap dans leur vie professionnelle était porteur de sens. Ce choix permettait d'adresser un message fort. Alors ce message, c'est le suivant. Moi qui suis handicapé, je produis pour toi qui es valide des plantes qui t'apporteront du plaisir et du bien-être tout en participant au respect de la terre. C'est ces mêmes valeurs qui nous ont conduit aujourd'hui à remplacer notre ancien séchoir électrique par un séchoir à énergie solaire. Séchoir qui, en plus de sécher les plantes, permettra de chauffer le bâtiment. Donc voilà, on est toujours dans les mêmes cohérences. En même temps, le bâtiment, on l'améliore, on l'agrandit avec des constructions toujours respectueuses de l'environnement, économes en énergie. Voilà, c'est toujours les mêmes valeurs qui portent depuis 1990 la vie à Nerbe.
Alors, comment ça marche, un séchoir à plantes?
Alors,
c'est un peu mystérieux.
Oui, dans la culture donc des plantes qui est faite par les ZAT, il y a un temps de séchage pour les plantes, évidemment, puisqu'après elles sont transformées notamment en tisane. Donc il y avait la nécessité pour les ZAT d'améliorer leur système de séchage de plantes. Cette réflexion était également menée sur les rénovations qui était nécessaire pour les structures de l'établissement en général. Il y a un audit qui a été donc mis en place, et cet audit a pointé le fait que l'utilisation du séchoir à plantes qui intervenait donc pendant les périodes d'été était finalement, le besoin en énergie de ce séchoir pouvait être complémentaire et en relais du besoin de chauffage pour l'établissement où résident les personnes accueillies. Donc, il a été décidé de mettre en place ce séchoir à plantes qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Donc, ce sont 50 mètres carrés de panneaux solaires qui ont été installés. Et donc, ce séchoir, avec l'énergie solaire, donc alimente le séchoir pendant les périodes d'été et alimente le chauffage de l'établissement pendant l'hiver. C'est évidemment des transformations dans les habitudes de travail des personnes qui sont accueillies par les ZAT. Donc il a fallu un petit temps d'adaptation. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les résidents sont très fiers de participer, comme tout à chacun, à préserver la planète.
Alors vous dites que ces personnes sont fières. J'imagine que ça participe à leur bien-être. Est-ce que le regard qui est porté sur elles est transformé lui aussi?
Oui, mais là-dessus, je vous propose d'écouter Philippe Ferrer.
Le changement de regard, c'est la chose, je dirais, la plus importante. Alors, il y a deux changements de regard. Il y a le changement de regard de tout un chacun sur le handicap, mais il y a aussi le changement de regard de la personne handicapée sur elle-même. Pouvoir dire, être fier de soi, de ce qu'on a fait, du travail qu'on accomplit, de l'endroit où on se trouve, enfin, ainsi de suite. Donc, nous, on essaie de jouer sur ces deux tableaux-là, à la fois le changement de regard de l'extérieur, je dirais, sur la personne handicapée, mais aussi beaucoup le changement de regard de la personne handicapée sur elle-même. Pour nous, c'est primordial d'être toujours dans l'innovation à la fois sociale et environnementale. Être toujours un petit peu en avance sur les autres en termes de propositions de produits ou de façon de faire. C'est encore l'exemple du séchoir solaire. Et en étant comme ça un peu innovant, à la fois les personnes handicapées qui travaillent avec nous sont fiers de leur lieu de travail où on fait des innovations, où on est à la pointe un peu et on n'est pas à la traîne des autres. Et puis aussi pour le consommateur, ben voilà, avoir à sa disposition des produits qui sont de qualité, qui sont bons, qu'on trouve dans beaucoup de boutiques ou la plupart des boutiques bio en France. Et quand on sait, puisque c'est indiqué sur notre emballage, quand on sait que c'est fabriqué par des personnes en situation de handicap, voilà, ça peut aussi changer le regard. L'autre façon aussi, c'est qu'on invite les consommateurs ou n'importe qui, en fait, qui est de passage près de Marcoussis, à venir nous voir. Et l'établissement est ouvert et on le fait visiter régulièrement.
Alors, il faut ajouter peut-être, Pauline Simon, que les plantes sont cultivées elles-mêmes par l'établissement.
Bien sûr, c'est le travail de l'ESAT qui à la fois cultive et puis après fait sécher ses plantes, les conditionne. Voilà. Donc toute la chaîne de production est assurée par les résidents de l'ESAT.
Alors une fois de plus, ces projets de développement durable tels qu'ils sont pensés par vos associations, donc placent vraiment l'humain au centre.
Alors, l'humain est au centre, certes, mais est-ce que ça signifie que tous les publics sont concernés ?
Oui, tout à fait. Comme on le disait en introduction, les questions de développement durable concernent tout le monde. Et ça, le service d'entraide protestant, le CEP, donc à la Grande Combe dans le Gard, l'a tout à fait compris. Et les programmes qu'il propose, comme Écologie ou Écologe-toi, sont tout à fait éloquents.
Écologie et Écologe-toi, il y a un jeu de mots, je crois.
Oui, alors écologie, éco, et logis comme le logis, le lieu où l'on réside.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là sur ces deux programmes ?
Bien sûr, donc Écologie est donc un appartement témoin qui permet d'accueillir des publics très divers, qu'ils soient en situation de précarité, puisque c'est le public principal qu'accueille cette association, mais aussi des enfants ou des riverains. Et donc, cet appartement témoin permet de présenter tous les gestes que l'on peut mettre en place dans chaque pièce de la maison pour limiter la consommation d'énergie. Le programme Écologe-toi est là davantage une démarche de sensibilisation autour d'ateliers, des ateliers à la fois théoriques qui sont des lieux de réflexion et qui sont toujours couplés à des ateliers pratiques où là on a une mise en situation concrète sur des thèmes très divers comme le chauffage, la peinture, le mobilier de récupération ou les produits d'entretien.
En fait, quand vous dites appartement témoin, c'est un appartement pédagogique, à vrai dire, qui
tout
est prêté
à fait
par la municipalité.
Alors, c'est un projet qui avait été porté par la municipalité et la gestion de cet appartement a été confiée au CEP.
Alors, nous allons écouter donc Gérard Sabat, qui est médiateur environnement habitat, cadre de vie, sur cette sensibilisation aux économies de l'eau. Il faut tendre l'oreille. Car voilà, le son n'est pas excellent, mais vraiment, ça vaut la peine de l'écouter.
L'eau, oui, c'est une partie importante. Donc, on travaille d'une part sur les gestes, c'est-à-dire comment on fait la vaisselle, par exemple, quels sont les gestes qu'on adopte quand on se lave les mains, on se brosse les dents, quand on prend la douche, combien de temps sous la douche, est-ce qu'on prend un bain ou une douche, quand je fais la vaisselle, est-ce que je laisse couler au robinet ou j'utilise une cuvette, comment je fais pour récupérer de l'eau. Ça, c'est tout la base, ce sont des gestes. Après, il y a tous les équipements sur lesquels on sensibilise. Alors, je fais une démonstration qui a du succès tout le temps. C'est avec, dans la douche, on prend une douchette banale, la moins chère en général, et on mesure le débit de la douche. Et on arrive avec des douchettes classiques à peu près 17 litres par minute. 17 litres par minute, ça fait beaucoup. On change la douchette et on met une douchette économique. C'est une douchette qui va mélanger l'air et l'eau, qui crée un jet assez puissant, mais qui consomme beaucoup moins d'eau. Et donc là, on va arriver à un débit qui arrive jusqu'à 7 litres par minute. Donc là, les gens ont compris que c'est 10 litres par minute économisés. Ça fait 50 litres par douche si on reste 5 minutes. Et si on multiplie ça par 365 jours, on arrive à des tonnes d'eau économisées sur l'année. On parle aussi des petits économiseurs d'eau qu'on met à la place des mousseurs classiques dans le robinet. Donc, c'est très facile de démonter l'embout du robinet, de mettre ce mousseur. Donc, ça va créer c'est un réducteur de débit. Donc, le robinet va couler toujours à 5 ou 7 litres par minute. Ce qui fait que quand on va se laver les mains ou rincer un verre, on va pas s'apercevoir de la différence, mais on aura deux fois moins d'eau qui coule que si on avait un robinet classique. Toutes les petites astuces sur l'eau, on peut y passer beaucoup de temps. Comment on fait pour réduire le volume de la chasse d'eau en mettant une bouteille à l'intérieur, des doubles chasses, et comment réutiliser, par exemple, en mettant une cuvette dans le lavabo, réutiliser l'eau quand on s'est lavé les mains, on peut récupérer l'eau de lavage des mains et puis ça servir pour, à la place de tirer la chasse, et jeter la cuvette dans les toilettes.
Bon, alors, on aura compris que c'est l'eau et non la cuvette qu'il faut jeter dans les toilettes. Finalement, cela fait référence à des gestes tout à fait quotidiens et nous sommes tous concernés par ces gestes-là dans notre consommation d'eau. Est-ce que vous pouvez évoquer encore d'autres initiatives, Pauline Simon ?
Oui, bien sûr, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, il y a des ateliers qui sont construits autour de la fabrication de meubles à l'aide de palettes de bois ou de meubles détériorés qui peuvent être recyclés. Il y a des ateliers consacrés à la peinture, à la cuisine aussi économique. Et puis, il y a également des ateliers pour apprendre à confectionner des produits d'entretien à moindre coût et qui sont plus respectueux de l'environnement. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter à nouveau Gérard Sabat qui nous présente cet atelier.
À partir du moment où on a compris que certains produits pour déboucher les toilettes ou pour nettoyer étaient toxiques, étaient un peu trop chers, on s'est dit on va faire l'atelier fabrication de produits ménagers. Donc on prend des produits de base qu'on retrouve dans tous les produits nettoyants, donc par exemple du savon de Marseille, des cristaux de soude, du bicarbonate, du jus de citron, des salves de lavande par exemple pour parfumer. Et donc comme ça, on a pu fabriquer du produit vaisselle, du produit pour nettoyer le sol, du savon liquide pour se laver les mains. Et ensuite, chaque participant est parti avec son petit produit qu'il peut reproduire à la maison avec les recettes, etc. La démarche de fabriquer ce produit ménager, là, on divise le prix par 4 ou 5 ou même par 10 des fois. Et on s'aperçoit qu'avec très peu de produits, on peut tout faire. Voilà. Avec le savon noir, avec la lessive de soude, avec le bicarbonate, avec le vinaigre blanc, qui maintenant, à force d'en reparler, ben, tout le monde a redécouvert le vinaigre blanc, qui détartre, qui nettoie l'inox, voilà. Donc on arrive à, plutôt que d'acheter des produits dans les discounts, d'abord on se dit, tiens, on achète le liquide vaisselle, ça vaut 1 euro la bouteille, mais bon, comme on est obligé d'en mettre 3 fois plus parce qu'il ne dégasse pas, finalement, ça revient pas moins cher que si on avait fabriqué soi-même. Et on a fait aussi une lecture de facture d'eau, en expliquant que la facture d'eau, ce qu'on paye surtout, c'est le nettoyage de l'eau. Moins on la pollue, et bien moins on aura peut-être de problèmes pour avoir de l'eau potable.
Oui, voilà. Même si ce ne sont pas des produits bio, ce sont des produits qui permettent vraiment par toutes sortes d'astuces de faire des économies. Et comme on l'a dit, nettoyer l'eau, on n'y pense pas à ce genre de choses. Je me dis qu'avec toutes ces astuces, ce serait quand même intéressant que ces expériences soient valorisées auprès des pouvoirs publics, parce qu'après tout, on pourrait déployer ça dans d'autres circuits, dans les circuits sociaux, dans des activités locales.
Tout à fait. Alors c'est une des missions hein, aussi de la FEP que de valoriser ces expériences auprès des pouvoirs publics, mais pas seulement, comme je disais en début d'émission, également auprès de nos associations, et qu'elles soient membres de la FEP ou pas d'ailleurs, puisque là l'objectif et ce qui est important, c'est de pouvoir identifier ces bonnes initiatives, ces bonnes idées, ces bonnes pratiques, d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'elles fonctionnent très bien et qu'elles peuvent être mises en place. Alors pour certaines, c'est un peu plus compliqué, mais pour d'autres initiatives, elles peuvent être mises en place très facilement. Et ce sont des initiatives qu'il faut pouvoir présenter pour qu'elles puissent être dupliquées un maximum. Et on l'espère et on le demande, évidemment, avec le soutien des pouvoirs publics.
Et, oui, un soutien financier, bien entendu, aussi.
Aussi, ça peut c'est toujours
pas négligeable.
Aider.
Voilà, vous avez des projets pour l'avenir, justement, à l'égard de cette information, de toutes ces initiatives,
Pauline? Oui, Simon. Tout à fait. On envisage, donc, à la Fédération de l'entraide protestante, d'organiser une journée d'information pour nos membres, mais pas seulement pour nos membres, pour toutes les personnes qui voudront venir et s'informer, avec la participation des personnes, notamment, que l'on a entendues et qui ont des choses à dire, puisqu'ils n'ont pu présenter là qu'une petite partie, hein, évidemment, des initiatives qu'ils mettent en place dans leur structure. Et de façon générale, nous n'avons pu présenter qu'une petite partie des associations hein, qui sont engagées dans les questions de développement durable. Donc l'idée est donc d'organiser une journée avec la présence aussi d'un éco-conseiller qui pourra répondre aux interrogations des associations comme du grand public sur ce qu'il est possible de faire, de mettre en place pour adopter des gestes beaucoup plus écologiques et toujours sur ces trois aspects du développement durable que j'avais évoqué donc en début d'émission.
Alors j'imagine que l'objectif, l'idéal, ce serait d'impliquer les 360 associations qui font partie de la FEP. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée de la proportion d'associations déjà engagées sur cette route du développement durable?
Alors nous sommes en train d'essayer d'identifier hein, toutes les initiatives mises en place. Je ne pourrais pas chiffrer en proportion hein, le nombre d'associations engagées. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que on s'aperçoit souvent en discutant avec les associations qu'elles ont des démarches développement durable, mais qu'elles ne s'en rendent pas toujours compte parce qu'en fait, il y a une malconnaissance de ce qu'est le développement durable et de ces trois piliers, hein, donc l'équité sociale notamment, dont je parlais tout à l'heure, l'efficacité économique et bien sûr le respect de l'environnement. Et elles n'ont souvent en tête que ce premier pilier, respect de l'environnement, et oublient les autres. Et en discutant avec eux, on se rend compte que, en fait, si tu fais du développement durable, mais tu ne le sais pas.
Pauline Simon, la Fédération de l'entraide protestante s'est intéressée aux questions des migrants dans notre pays. Est-ce que, justement, autour de la question du climat, il n'y a pas quelque chose là qui pourrait se développer dans le cadre du développement durable ?
Bien sûr, on sait que si on ne fait rien, hein, dans les années à venir, on aura ce qui a été appelé les migrants climatiques, c'est-à-dire des gens qui vont être amenés à fuir leur lieu de résidence, tout simplement parce qu'il ne sera plus viable pour des raisons évidentes de catastrophes, notamment catastrophes naturelles, d'incapacité d'accéder à l'eau. Donc c'est des problématiques, évidemment, qui vont se poser dans le futur si on n'agit pas dès aujourd'hui.
Avec une paupérisation, évidemment, qui pousse aussi à partir lorsque le climat vous abat.
Le problème, si vous voulez, est toujours le même. C'est que ce sont toujours les populations qui sont déjà vulnérables qui sont toujours le plus touchées. Et les premières, finalement, touchées par ces questions climatiques sont évidemment les populations aujourd'hui déjà vulnérables.
Pauline Simon, on se retrouvera donc pour d'autres émissions. Et nous vous remercions d'être venue ce soir.
Je vous en prie.
Notre radio, notre climat.
Il est 19h42, c'était le dossier du soir que vous avez pu découvrir avec nous. Si vous avez raté le début ou si vous voulez en réentendre des extraits, ce sera possible. Vous pourrez réentendre ces extraits sur les sites protestant.org ou Regard Protestant ou encore dans les podcasts de vos radios. C'était Chantal Crétaz et Claire Bernol qui recevaient Pauline Simon, chargée de communication à la Fédération de l'entraide protestante. Tout de suite, un peu de musique avec Ding de Bada Bing Bada Bop. Mais oui, j'ai dit d'un coup. Et voilà un peu de jazzy peps hein, pour terminer cet après-midi et commencer cette soirée avec vous. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est un peu de baby peps maintenant qu'on vous propose avec les enfants qui nous racontent des contes et qui nous font un petit peu rêver, qui nous disent que peut-être l'avenir pourrait être plus joli que ce qu'on imagine parfois. Voici des enfants de l'école maternelle de Saint-Martin de Valgalgues. Mais oui, c'est là-bas. Vous voyez ?
On est en école maternelle.
C'est Martin Valgal.
C'est le WC,
le salon.
Et alors, une fois qu'on aura dessiné toute la maison, où est-ce qu'on mettra les poubelles ?
Le placard.
Dans la cuisine.
À côté le frigo.
Dans le garage.
La première étape, ça a été une chasse aux déchets dans la cour de l'école, puisque c'était difficile d'aller le faire à l'extérieur de l'école. Seules les grandes sections ont fait donc du nettoyage de la nature un peu aux alentours de l'école. À partir de ça, on a sorti des sacs poubelles tout ce qu'on avait trouvé. Et on est parti de là pour essayer de trouver dans quelle poubelle ça pouvait aller, si les enfants déjà connaissaient le tri à la maison. Et on les a initiés au tri. Les élèves ont préparé un jeu avec des camions poubelles sur lesquels on peut placer et trier tous les emballages que l'on a trouvés et donc nommés dans la cour de l'école. Et toutes ces étiquettes ont été découpées dans les publicités et chaque enfant peut aller placer dans chaque camion les emballages qui sont triés.
Il y a 4 camions.
Camion vert.
Dans le camion vert, on met du vert.
On met des bouteilles de Nutella.
Un pot de mayonnaise.
De la confiture.
Camion bleu.
Dans le camion bleu, on met du papier.
Du journal.
Des courriers.
C'est comme dans la boîte aux lettres.
Du carton, les emballages en carton.
On met des cartons de chocolat.
On met aussi des
journaux.
À regarder.
Il y a des publicités.
Des publicités.
Ben c'est cela qu'on regarde à la télé.
Il y a des pubs, des magasins.
Dans le camion jaune.
Dans le camion jaune.
On met des bois de sarral.
Pot de cornichon.
Un pot de Nutella.
Des bouteilles
en plastique.
Moi, je y mets une brique.
Des briques de jus de pomme.
Des conserves.
Il y a aussi des canettes.
Du coca.
C'est du papier immuno.
De la lessive.
La lessive.
Pour laver le linge.
Pour faire le ménage.
Des bonbons en papier.
Des papiers de bonbons.
Tous les autres déchets qui ne peuvent pas être triés dans la poubelle ordinaire qu'on a appelée le camion marron.
Où est-ce qu'il va une fois qu'il est tout plein, qu'il a tout mangé, tous ces trucs-là dans son ventre ? Où est-ce qu'il va ?
Le camion poubelle, il crache les déchets.
Au cabinet.
Thank you.
c'est où on met dans le bac des épluchures,
des pots de légumes,
du citrouille,
les pots de carottes.
On met tout ça dans la terre.
Ça va faire pousser les plantes.
Qu'est-ce qu'on a fait avec tous les déchets qu'on a ramassés dans la cour quand on a fait la chasse aux déchets?
On a mis les déchets dans des bacs. On a mis les déchets dans la terre.
Pour voir si ça pousse.
On est à l'école Casanova. C'est une école maternelle. Chez les grands. À Saint-Martin de Valgague.
Nos déchets, ils sont très précieux.
On va faire de l'art.
On va faire des tableaux.
Et on va les montrer.
Aux parents.
À ses frères.
On a pris des déchets dans les poubelles. On a pris un petit cadre blanc et on les a mis. On les a pris en photo. Et on a fait des tableaux.
On a pris des petits papiers. On a écrit notre prénom. On a signé le tableau.
Construit les dessins avec les bouteilles et les canettes.
On a fait des sculptures avec tous les déchets qu'on a ramassés dans la nature.
Avec des déchets et avec du scotch.
On a fait un oiseau. Piu piu.
On a fait des bonhommes.
On peut mettre au recyclage tout ce qui nous sert.
On peut fabriquer des gilets avec du plastique qu'on coupe avec une machine.
Avec, on peut fabriquer des pulls polaires.
On peut refaire des vélos.
Aussi, on peut refaire des verres en plastique.
Même des verres. On peut en refaire du verre.
Avec du carton. On peut fabriquer des bancs.
Nos déchets, ils sont très précieux.
On les a mis dans une jardinière pour voir si ça repoussera. Et on va attendre qu'ils repoussent. S'ils ne repoussent pas, ça veut dire que ça ne marchera pas.
Tout peut disparaître peut-être.
Et on a arrosé.
On attend.
On arrose.
On attend.
On arrose.
On attend.
On fait que attendre.
Aux vacances de Toussaint, les enfants sont partis tous avec un sac jaune pour essayer donc d'initier le tri à la maison et de l'expliquer aux parents et des brochures données par l'ambassadeur du tri.
Pour s'approprier toutes ces connaissances, inventons un conte, dont voici ici le résumé. Entre une souris qui grignote et qui trie pour manger, un papy poubelle qui emploie des vieux camions tout polluants, mais qui comprend qu'aujourd'hui, c'est différent.
Et la souris,
elle a dit... Ben, moi, quand tout le monde dort, je vais trouver les sacs et je vais voir ce qu'il y a dedans pour que je le mange.
Et ben, elle va dans la rue et elle fait un trou dans le sac, elle mange tout. Elle l'a mis de partout, des déchets.
Et après, Papy Camion, il est venu et... Il l'a mis dans... dans son camion, il a mâché et après, il a creusé un trou, il a mis les déchets.
Et il enterre les sacs. Maintenant, c'est plus comme ça. Mais non, papy camion.
Maintenant, il y a plusieurs camions.
Ah bon?
Ben oui.
Il y a des camions bleus.
Il y a des camions verts.
Il y a des camions jaunes.
Ah bon?
Ben oui. Mais papy, tu sors pas ou quoi?
Après les camions.
Ils vont dans des engins.
On peut faire des choses avec ce qu'il y a dedans, leur ventre. C'est leur recyclage.
Recyclage.
Votre radio, notre climat.
Voilà, c'était les enfants de l'école maternelle de Saint-Martin de Valgalgues avec le conteur Guy Gattepaille. C'est ainsi que nous terminons ce programme pour aujourd'hui. Dans quelques instants, vous allez retrouver vos programmes habituels sur vos radios, les radios du collectif qui participe à cette opération spéciale Votre Radio, Notre Climat, radio grille ouverte à Alès, Phare FM, Porte du Dauphiné, Fréquence Protestante à Paris, Radio Semnose à Annecy, Radio Parole de Vie à Saint-Malo, Radio Harmonie Cornouailles à Concarneau, Radio Oméga à Montbéliard, FM Plus à Montpellier. Nous avons aussi Alliance Plus à Nîmes, Radio Albatros au Havre, Arc-en-Ciel à Strasbourg et Espoir FM à Agen. Tout ce monde-là est avec nous, tout ce monde-là est avec vous et tout ce monde-là s'intéresse au climat. On se retrouvera demain matin dès 7h pour nos dernières matinales. Ben oui, déjà cette semaine qui s'achève, qui s'est passé avec vous, et ben demain, deux invités particuliers dès les matinales avec Jacques Varret, que nous retrouverons au micro de Christian Delors. Et puis Chantal Crétaz nous rejoindra également demain pour interviewer Bruno Lecoquière, où il sera question d'eau en particulier. Et oui, il faut beaucoup s'occuper d'eau, les enfants nous l'ont dit dans cette émission, il faut s'occuper de l'eau. Et nous verrons ça demain. Très bonne soirée à vous tous et on vous retrouve demain dès 7h.
So I